Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte, chaque jeudi de 10h à 10h30. Je suis Laurence, vous pouvez nous suivre sur le 98.0 de la bande FM, sur idfm98.fr. Merci à Francky qui va produire cette émission. Alors, au programme de notre jeudi 2 mars, eh bien, un invité. Oui, on est au début, non pas encore du printemps, mais on s'en rapproche à toute vitesse. On va pas donc parler des fleurs, on va parler du jardin avec Gérard Guillot, l'auteur du guide des fleurs du jardin, paru aux éditions Belin. Il va nous donner des conseils, il va nous dire comment bien s'occuper de son jardin et surtout de ces fleurs qui vont nous réjouir tout au long de l'année. Puis, dans une seconde partie d'émission, comme à chaque fois, des informations autour de l'environnement, de l'écologie dans notre région et ailleurs. À tout de suite. Bonjour Gérard Guillot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de la nouvelle édition de votre guide des fleurs du jardin. C'est paru aux éditions Belin. C'est un ouvrage formidable en couleurs qui compte presque 700, plus de 700 pages même. Un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque pour les amateurs éclairés, mais aussi les novices qui aiment les fleurs, qui aiment le jardin, car on va y retrouver une vraie encyclopédie d'informations sur toutes les plantes, plus de 800 espèces, bref, l'histoire des plantes, l'histoire des insectes qui aiment les plantes. Mais avant de parler de ce magnifique ouvrage, d'abord un petit mot sur vous. Vous êtes enseignant, agrégé de biologie, vous êtes naturaliste et notamment spécialisé en botanique, en ornithologie, en entomologie. On vous doit déjà d'autres ouvrages autour des fruits, le guide des fruits sauvages en 2 tomes. On vous doit aussi le guide des bois. Le guide en co-écriture, le guide des oiseaux de France et bien d'autres. Mais aujourd'hui, on va parler de ce guide des fleurs du jardin dont vous avez tout fait.
Oui, entièrement. Oui, c'est un de mes... Alors, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'était surtout les autres des ouvrages purement naturalistes, on va dire. Mais moi, ça, je fais pas de distinguo entre la nature et celle qui est au jardin. Et justement, c'est dans cet esprit-là que j'ai rédigé ce guide, avec l'idée de faire des ponts entre le jardin et la nature, et avec comme fil conducteur la biodiversité, qui est le gros problème actuel, de tisser des liens à ce niveau-là, quoi.
Alors justement, avec la période qu'on vient de vivre de la Covid, les confinements, on a une soif, une appétence pour la nature, pour le jardin, pour la biodiversité, et en même temps, on retrouve presque nos pires travers, parce qu'on n'a jamais autant pollué que depuis le retour à la vie normale, avec ces avions, ces voyages, et puis en même temps, ce réchauffement climatique, ces sécheresses, ces épisodes de sécheresse, et ça a un impact direct sur nos jardins, on le voit tout de suite.
Et oui, les jardins, c'est des morceaux de nature, même si c'est très transformé et géré entièrement par l'homme, il n'empêche que c'est des morceaux de nature et qu'effectivement ils subissent l'impact du changement climatique de plein fouet, et ils sont aussi dépendants de nos pratiques, de ce qu'on y fait, de comment on gère le jardin, par rapport justement à l'impact que ça va avoir sur le milieu naturel. Vous savez, en agriculture, on considère les paysages agricoles, on parle d'agroécosystème. Alors, il n'y a pas de mot pour le jardin, mais on pourrait dire qu'il y a un jardin écosystème aussi, et qu'il dépend de, chacun de nous, enfin, de chacun de nous qui avons un jardin, de le gérer de manière à ce qu'il, d'une part, il puisse encaisser, entre guillemets, les effets du changement climatique en cours, et puis d'autre part, qu'il puisse participer à sa manière à, justement, en atténuer les effets et participer à la conservation de la biodiversité et de toutes ces choses-là, quoi.
Alors, dans votre ouvrage, on va retrouver donc des plantes, j'ai envie de dire endémiques, c'est-à-dire des plantes qui existent vraiment dans notre patrimoine naturel, mais pas que, parce que finalement, on fait venir des plantes d'un peu partout et qui se sont très bien acclimatées à nos territoires.
Oui, alors c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire dans un premier temps à la culture de ce qu'on cultive au jardin. Enfin, je parle au niveau fleurs, plantes ornementales. Là, je parle pas des légumes. Hein. C'est que effectivement, il y a beaucoup de plantes exotiques entre guillemets. Bon, mais maintenant, les 9/10 des plantes exotiques qu'on cultive au jardin sont des plantes que l'on reproduit en serre, etc. Donc, qui sont pas prélevés dans les milieux naturels, d'une part, et puis d'autre part, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pensait à une époque, le fait qu'il y ait des fleurs exotiques, des fois, ça peut compenser, malheureusement, l'appauvrissement de la biodiversité locale, je pense notamment en milieu périurbain. Il y a des jardins qui offrent une richesse de biodiversité considérable qui va répondre aux besoins de pas mal d'insectes, des pollinisateurs notamment, hein, je pense à eux en premier. Donc, de ce point de vue-là, l'exotisme, on va dire, de pas mal de plantes, qui peut être vécu un peu comme un reproche, on peut le retourner en quelque chose de positif, mais je répète, mais à condition de ne pas tomber dans le travers de l'exotisme pour lui-même, mais et privilégier chaque fois qu'on peut les espèces locales, etc. Quoi.
Alors, ce qu'on retrouve, pour revenir à votre ouvrage, Le Guide des Fleurs du Jardin, qui est vraiment une mine d'informations, c'est tout d'abord, vous nous donnez des conseils pour bien observer une plante, car la plante, c'est vraiment un être entre guillemets, c'est-à-dire il a des éléments, des racines, alors elles peuvent être apparentes comme les rhizomes, des iris hein, qu'on peut voir, on croit qu'il faut les enterrer mais pas du tout, on découvre qu'il existe des bulbes, là c'est la saison, beaucoup de gens vont commencer à, ou c'est déjà fait d'ailleurs, les bulbes, où on voit donc ces jonquilles qui sortent en ce moment. Dès le départ, vous nous apprenez ou vous nous rappelez comment bien observer une plante?
Oui, et d'ailleurs, il y a une expression qui en dit long là-dessus, c'est qu'on parle très souvent des fleurs du jardin. Et souvent, on résume les plantes à des fleurs. Alors, la fleur, ça n'est qu'une partie de la plante. Et très souvent, on oublie les racines que vous avez mentionnées. Alors, les racines, ça, c'est la boîte noire que tout le monde oublie. Et c'est pourtant là que se passe l'essentiel de la vie des plantes, à l'interface avec le sol. Hein. Et ce qui se passe dans le sol est essentiel. Après, il y a les feuilles, il y a les tiges, il y a les fruits. Il y a la plante, quand elle sèche, après, les parties sèches des plantes aussi, ça aussi, très souvent, le grand public l'ignore complètement, on coupe très vite dès que c'est sec, on regarde même pas, etc. Donc effectivement, moi, ça m'importe beaucoup d'attirer l'attention sur toutes les parties des plantes, et comme vous l'avez très bien dit, de considérer la plante comme un être vivant à part entière. Et quand on regarde un animal, on ne regarde pas que ses yeux, admettons, on regarde quand même le reste, si c'est un oiseau, les plumes, les ailes, la tête. Chez les plantes, c'est vrai qu'on a souvent une vision déformée ou très centrée, très anthropocentrée, et là effectivement, c'est une manière de rappeler un peu que la plante, elle est diverse et que c'est un être vivant comme les autres et qu'il faut regarder sous toutes les coutures, quoi.
Et ce qui est formidable aussi, c'est que après donc avoir appris ou réappris à observer ces plantes, faut les nommer. Et évidemment, et grâce à votre guide, on va retrouver le nom de toutes ces plantes, parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent et qui ne portent pas le même nom. Et vous nous rappelez que ces noms, elles ont des noms parfois très compliqués et des noms beaucoup plus communs. Et c'est formidable parce que au final, on apprend à la fois beaucoup de choses sur leur terminologie, comment elles sont arrivées. Cette terminologie, parce que c'est vraiment une science.
Ah oui, complètement. Et c'est aussi je cite beaucoup à chaque fois que je peux l'étymologie, effectivement, oui. Comme vous dites, l'origine des noms, pourquoi on les appelle comme ça, les noms communs et tout, parce que c'est un moyen aussi de mémoriser et de se rapprocher des plantes. Parce que si on se contente de donner que son nom latin sans expliquer ce qu'il veut dire, ou son nom commun sans même expliciter historiquement comment c'est venu, etc., en racontant des histoires, ça moi je l'ai découvert en faisant des sorties nature ou avec du grand public, c'est que là, les gens, aussitôt, claquent, c'est une association d'idées, et ils vont beaucoup mieux retenir que si vous leur dites simplement un nom. Ça, c'est ça, ça mène à pas grand-chose. Alors que si on vous dit, ça, telle plante s'appelle comme ça parce que autrefois on faisait ceci ou cela avec elle, tout de suite, ça va interpeller, et on a beaucoup plus de chances de l'intégrer et ensuite d'y faire attention, quoi.
Et en plus, on peut briller ainsi en société et impressionner.
Oui.
Les
c'est
non,
vrai.
Mais c'est toujours.
Vaut mieux briller avec des anecdotes, etc., qu'avec des grands mots ronflants. Mm. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont tendance à abuser du latin et à ne délivrer que des noms latins sans rien expliciter. Ça, par contre, là, je trouve que c'est briller d'une manière un peu
pâle.
Oui, opaque. Quoi.
Alors, on apprend aussi, comme vous le rappeliez, hein, c'est vraiment la biodiversité qui a repris son importance dans nos jardins depuis quelques années, tant elle est en souffrance. Hein, on parle des pollinisateurs, ces fameuses abeilles, nos sentinelles de la nature qui sont vraiment en souffrance. Il y a aussi ces oiseaux, ces passereaux qui disparaissent avec le réchauffement climatique, mais aussi avec nos propres modes de vie, c'est-à-dire on coupe des haies, on empêche ces arbustes qui sont à la fois le gîte et le couvert de ces animaux et qui ont évidemment qui ont une utilité dans le jardin, que ce soit des jardins de fleurs, mais aussi des jardins de fruits. C'est très important, de fruits et de légumes. Et vous nous rappelez ces fleurs qui permettent à la fois de nourrir les pollinisateurs, également les herbivores, les granivores, les frugivores. Bref, tout ce qui permet à cette biodiversité d'exister. Vous nous donnez des conseils pour pailler, pour composter. Alors le paillage, c'est extrêmement important avec nos épisodes de sécheresse. Et on a même parler d'une canicule hivernale, un terme que je ne connaissais pas du tout.
Oui, là, ce que vous évoquez là, en fait, c'est ce que les écologistes appellent les interactions, c'est-à-dire que les plantes, elles ne sont pas seules dans l'environnement. Elles interagissent avec des insectes, avec des oiseaux, avec des mammifères, avec tous les autres êtres vivants. Elles interagissent entre elles aussi parce que y a des plantes qui entrent en compétition, etc. Et ces interactions, c'est ce qui modèle, en quelque sorte, ce qui façonne la biodiversité. Et ce qui fait la richesse d'un écosystème, c'est la richesse des interactions qu'il y a entre ses différents membres. Et le but d'un jardin, ça devrait être désormais de créer le plus possible d'interactions. Donc ça veut dire introduire de la diversité, beaucoup d'espèces différentes, et parier sur cette diversité pour dire, si je mets plein de plantes différentes, eh ben il y a des chances que ça attire tel pollinisateur, tel autre insecte, tel herbivore, tel granivore, etc., et que mon jardin va être visité par de plus en plus de monde et va devenir un peu le point de départ d'un écosystème plus riche et plus diversifié, quoi.
Et une vraie vie qui va apparaître dans nos jardins avec le bruit de ces oiseaux le matin, cette incroyable couleur de ces insectes qui viennent polliniser pendant toute l'année, enfin printemps, été, automne même. Et vous nous rappelez effectivement que là, maintenant, il y a le compostage qui est très important, qui va être d'ailleurs obligatoire à partir de l'année prochaine et qui est un moyen formidable à la fois de ne pas jeter bêtement, de nourrir ces sols au lieu d'acheter des engrais chimiques ou parachimiques. Là, on peut soi-même nourrir son propre jardin.
Oui, alors ça c'est vous avez cité tout à l'heure le paillage aussi qui est ultra important effectivement par rapport à la problématique de la sécheresse, mais le paillage aussi qui nourrit les plantes parce que par la décomposition des matériaux, ça enrichit le sol, ça favorise le travail des vers de terre, etc. Mais au-delà de ces techniques-là, et vous avez raison d'insister dessus, compostage, paillage, moi j'insiste aussi à certains moments sur ce que j'appelle les non-actions, c'est-à-dire perdre l'habitude de faire certaines choses qu'on faisait traditionnellement depuis des décennies, sans trop savoir pourquoi. Par exemple, la manie de tondre à tout bout de champ et de maintenir une herbe rase, de ne pas laisser fleurir les plantes, de traquer les mauvaises herbes, comme on dit, les mauvaises herbes, ça c'est un mot qu'on devrait désormais bannir de notre langage, accepter les plantes sauvages au milieu des plantes cultivées, sans tomber dans les bisounours, parce qu'il y a des plantes sauvages qui peuvent devenir très envahissantes et évincer les autres, mais exercer des actions raisonnées et arrêter les interventions à tout crin, dans tous les sens. Et justement, on ne veut plus d'une agriculture, par exemple, intensive qui détruit les environnements. Eh ben, nous, il faut qu'on montre le même exemple et qu'on se comporte d'une manière beaucoup plus éco-responsable. Et comme disent les Britanniques, éco-friendly, qu'on soit beaucoup plus amical, beaucoup plus bienveillant envers l'environnement, envers la biodiversité, quoi.
C'est vrai qu'on dit le jardin de la française, c'est un jardin très structuré, très hiérarchisé. C'est vraiment la main de l'homme qu'on voit partout. Alors que le jardin anglais, il y a une partie plus sauvage, où on laisse la nature faire son œuvre.
Ah oui, alors moi ça, enfin bon, c'est personnel, mais moi les jardins à la française, ça me hérisse, ça me rend... Enfin oui, pour moi c'est un non-sens, c'est vraiment l'image absurde de la domination de l'homme occidental sur la nature, et la nature domestiquée à un degré, enfin, quadrillée, rectifiée, alignée, enfin, manucurée, etc. Et ça, c'est une image du passé. Alors bon, je veux pas dire qu'il faut détruire les jardins qui existent à la française, hein, ça fait partie d'un patrimoine, ça, etc. Du point de vue architectural, ça a un sens. Mais dans nos propres jardins, moi je dis maintenant, le critère esthétique, ok, il est important, c'est vrai que pour la vue, pour soi, mais il ne faut pas se laisser dominer par des schémas comme ça dominants qui sont dépassés, et il faut accepter excusez-moi l'expression, mais du bazar par moment. La nature, c'est un peu bazar, hein. Il y a des trucs qui poussent un peu dans tous les sens. Accepter qu'à certains moments, il y a des trucs qui dépassent, il y a des fleurs séchées. Ben oui, mais les fleurs séchées, elles vont faire des fruits qui vont attirer des oiseaux, etc. Donc tout ça, c'est une autre façon de penser et une autre façon d'appréhender la nature depuis son jardin, hein, et de collaborer, enfin de participer à cette action générale envers la biodiversité, quoi.
Alors, pour revenir à ce guide des fleurs du jardin, dont on rappelle, il est paru aux éditions Belin dans une nouvelle édition, on retrouve donc des centaines de conseils selon le type de sol qu'on a, s'il est sec, s'il est en plein soleil, si au contraire il est en zone mi-ombre ou avec un sol frais humide. Bref, on va retrouver des conseils pour bien planter ces plantes, justement, pour éviter d'être déçu, hein, de se dire qu'on n'a pas la main verte, alors qu'en fait, des fois, il faut juste avoir un peu de bon sens paysan pour se dire que cette plante ne va pas n'importe où. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle va être à son aise dans son jardin. Là encore, on voit des centaines d'informations. Et puis ensuite, on peut aller comme ça, picorer selon, si on veut en savoir plus sur une plante, ou au contraire, si on veut se dire celle qui vient de pousser dans mon jardin, est-ce que elle est bien celle que je crois être? Et on découvre sur une superbe page, tout d'abord, son nom latin, et puis la période de floraison, là on va vraiment la voir exploser. Alors on a un calendrier, hein, de janvier à décembre, et puis c'est coloré, la période où on va vraiment en profiter pleinement. Et puis ensuite, vous nous rappelez ses particularités, son habitat, c'est formidable. On puisse vraiment des informations sur toutes ces variétés de plantes. C'est vraiment l'œuvre d'une vie, hein, ce guide.
Ouais, enfin, peut-être pas, mais en tout cas, c'était. J'ai vraiment eu la volonté de me démarquer de la plupart des guides classiques de jardin qui ont tendance à traiter les plantes comme des objets. Enfin, c'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais souvent les plantes sont réduites à un nom. Alors, elles ont une histoire, elles ont ce que vous venez de dire, elles ont un habitat. Ces plantes cultivées, elles viennent de, si elles sont exotiques, elles viennent d'autres pays. Donc, dans ces pays, où est-ce qu'elles vivent, quels liens elles ont avec les gens dans ces pays, etc. Donc c'est tout ça que j'ai voulu un peu remettre dans ce livre, et qui manque très 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 souvent dans la plupart des ou même dans les revues de jardinage, où on est centré sur la plante qu'on veut obtenir, qu'on veut avoir en fleur, mais sans trop se soucier d'elle. Donc c'est presque un respect, et vous avez utilisé au début le mot, je trouve le mot juste, c'est des êtres vivants comme les animaux, et c'est de la considérer comme une entité vivante à part entière. Et ben, ça suppose de la respecter, de faire attention à elle et de s'intéresser à elle. Et s'intéresser à elle au-delà de ça y est, elle est en fleur, ah ben elle est jolie, ben voilà. Ben non, elle est ok, elle est jolie, mais elle a beaucoup d'autres choses à nous dire, à nous raconter, quoi.
Et ce qui est formidable, c'est que là, par exemple, ce qu'on peut découvrir dans nos jardins, ce sont les personnages ou les Sternbergia, qui sont des plantes qui donnent tout de suite de la couleur, de la joie, hein, dans nos jardins, parce qu'on sent que le printemps n'est pas loin. Et on découvre ces plantes, vous nous rappelez que ce sont toutes deux des plantes vivaces à bulbes, et puis qui vraiment nous amènent à cette saison formidable. Alors, je me suis trompée, pardon. Pour les Sternbergia, je me suis trompée de saison. C'est beaucoup plus tard. Mais elle ressemble tellement à une autre plante que j'ai vue il y a peu, là, sur le chemin, et ce n'est pas du tout celle-ci. Alors, attendez, je dis des... C'est vraiment, elle lui ressemble beaucoup. Alors du coup, c'est une autre plante. Mais alors,
il y a des crocus jaunes.
Voilà, crocus jaunes. Merci. Elles sont vraiment très très proches. C'est comme les narcisses et les jonquilles qu'on a tendance à confondre, alors que elles sont pas du tout. Enfin, pas du tout. Elles se ressemblent beaucoup, mais elles ont toutes les deux leurs particularités. On pourrait rajouter aussi la narcisse larme d'ange, qui est formidable, qu'on voit assez peu dans les jardins. En tout cas, moi, je l'ai découverte dans votre guide. Et puis, comme ça, on part page après page. Soit on peut picorer dedans et découvrir des informations formidables sur des plantes. Et puis, ou sinon, vraiment le lire comme un bon roman, parce qu'on découvre ces plantes. Elles ont des particularités tellement incroyables. Elles ont leur propre vie, leur propre système. Et puis elles nous ravissent à la fois les yeux, enfin tous nos sens, parce que certaines sentent meilleur que d'autres, d'autres ne sentent rien malheureusement, et elles nous accompagnent toute l'année, car on peut en voir presque tout au long de l'année, comme ces jonquilles là qu'on voit déjà, ces personnages hein, qui nous suivent déjà depuis le début du mois de février, et plein d'autres plantes qu'on va donc laisser pousser en liberté ou presque, en tous les cas avec beaucoup d'attention par les jardiniers. C'est ce guide des fleurs du jardin. On peut aussi avoir un petit bout de balcon, un bout de terrasse, parce que finalement ces plantes, ces fleurs, on peut les avoir un peu partout aujourd'hui.
Oui, on peut très bien faire des cultures dans des pots aussi, hein, sur un balcon. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que comme on les a très près de chez soi, on peut les suivre jour après jour. Et ça aussi, c'est un aspect passionnant, hein, c'est de s'intéresser à la plante dans son cycle de vie et de pas seulement la regarder quand elle est en fleur, de la voir sortir de terre, éclore, pousser ses feuilles, comment les feuilles se développent, à quelle vitesse, etc. La transformation de la fleur en fruit, ainsi de suite. Donc là, je pense que et même sur un balcon, vous aurez des abeilles qui vont venir, vous pouvez avoir des insectes qui viennent butiner.
Des papillons.
Donc, c'est de mettre de la nature partout où on peut, chaque fois qu'on peut.
Et puis, c'est l'éloge du temps qui passe, de la lenteur. Les enfants, je suis sûre, ils adorent ça, commencer à mettre des petites graines ou un bulbe, et puis découvrir comme ça cette plante pousser. Et puis après, peut-être même récolter les graines à la fin de la saison de la fleur et replanter l'année suivante. C'est formidable. C'est le guide des fleurs du jardin de Gérard Guillot. C'est 800 espèces, plus de 1500 photos. Elles sont toutes de vous?
Presque. Peut-être quelques-unes, mais à une dizaine d'exceptions près, c'est toutes des photos que j'ai faites.
Et vous allez donc, j'appelle nos amis auditeurs, découvrir tout cela donc aux éditions Belin. Celles et ceux qui veulent en savoir plus peuvent cliquer sur belin-éditeur.com et on peut aussi vous retrouver sur Internet.
Oui, je gère un site depuis que je suis à la retraite. J'ai entrepris de gérer un site où je fais des chroniques science et nature. Donc ce site s'appelle Zoom, donc z2om-nature.fr, et il y a plus de 1000 chroniques. Hein, quand je dis des chroniques, c'est des articles assez longs où je détaille, par exemple, je prends une plante et puis je raconte toute une plante sauvage ou une plante cultivée, et où je raconte tout son mode de vie. C'est un peu ce qu'il y a dans le livre, mais beaucoup plus étoffé, et puis avec des tas d'illustrations, etc. Donc.
Eh ben, on va aller voir ça sur Internet, et puis on va se procurer votre très beau guide des fleurs du jardin, qui un guide qui va nous accompagner toute l'année dans nos jardins, dans nos bibliothèques, et qu'on peut picorer vraiment. C'est un très bel ouvrage en couleur, je le rappelle, où vous allez retrouver des centaines, si ce n'est des milliers d'informations sur les plantes du jardin, qu'on soit à Lille, en Corse du Sud, enfin sur tout notre territoire français. Merci encore à vous Gérard Guillot, et puis on vous souhaite une belle saison. Là, j'imagine que déjà dans votre jardin, avec ce réchauffement climatique, beaucoup de plantes sont déjà sorties de terre.
Oui, enfin moi je suis en Auvergne, là il fait encore froid, mais il fait déjà très 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 sec. Et c'est pas très réjouissant ce qui s'annonce pour ce printemps, mais bon, on va faire avec.
Oui, en région parisienne, certains arbres commencent déjà à bourgeonner, certaines fleurs d'ailleurs.
On a des amandiers qui ont commencé à fleurir.
Ouais. Et là c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que on pense aux gelées. au sein de glace, mais qui sont pas, qui sont bien loin. On va croiser des doigts et puis on va espérer que les comportements, hein, de nos citoyens vont aller dans le bon sens pour l'environnement et puis surtout pour notre sauvegarde, hein, de la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est aussi notre avenir à tous. Merci à vous, Gérard Guillot.
Merci.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes à l'écoute de Mission Verte. Alors, que se passe-t-il dans notre région? Bien, sachez que deux nouvelles tours à nichoirs pour hirondelles et chauves-souris ont été installées en Essonne. C'est un projet achevé à la mi-février par le syndicat de l'Orge à Olainville et à Tismons grâce au budget participatif écologique de la région. Alors, vous savez, après une longue traversée de la région saharienne, nos hirondelles devraient rejoindre, eh bien, nos contrées à partir du mois d'avril. Au parc de l'eau à Olainville et sur le site du coteau des vignes à Tismons en Essonne, des tours à nichoirs donc ont été mis sur pied. Alors, les sites sélectionnés ont été faits grâce à la présence d'une prairie et d'un point d'eau aux alentours, car la prairie, c'est un lieu d'implantation dégagé, idéal pour accueillir ces oiseaux. Et puis aussi, il faut un point d'eau pour qu'ils puissent évidemment à la fois se désaltérer et créer, grâce à la boue, leur nid. Alors, c'est, il faut le rappeler, hein, ces hirondelles, une espèce en déclin en raison du développement urbain de moins en moins propice pour sa nidification. Alors, le syndicat de l'Orge a pour cela été lauréat d'un budget, le budget participatif écologique de la région Île-de-France, dans le cadre du projet Nature en ville. Et donc, ont vu le jour, ces deux tours nichoirs. Évidemment, l'objectif, c'est de restaurer les équilibres écologiques en milieu urbain, valoriser les services rendus par la nature, comme la lutte contre la prolifération des moustiques. Sachez qu'une hirondelle peut chasser jusqu'à 2000 moustiques par jour et jusqu'à 3000 pour une chauve-souris. Autant vous dire que c'est important de les garder. Sachez également que le système de repasse, ce qui est en fait l'imitation du champ, est alimenté par l'énergie issue de panneaux solaires installés sur le toit des tours afin d'attirer ces couples nicheurs. Les nichoirs sont aussi renforcés par du ciment afin d'éviter une détérioration de ces derniers par d'autres espèces, tandis qu'un entonnoir en acier a été positionné sur le mât pour éviter une potentielle prédation des nids par des mammifères tels que les chats ou les fouines. Si vous voulez découvrir les photos, n'hésitez pas à aller sur le site actu.fr. Vous êtes toujours à l'écoute de Mission Verte. Aujourd'hui, le chiffre de la semaine, c'est 32. 32, oui. Ça fait 32 jours qu'il n'a pas vraiment plu sur notre région. Et c'est un record depuis 1959. Et c'est d'autant plus préoccupant que cela se produit à une période où les nappes phréatiques sont censées se recharger. Par exemple, ce mois de février devrait faire partie du top 5 des plus secs jamais enregistrés en Île-de-France. Et c'est grave car la station de Paris-Montsouris n'a enregistré que 1,4 mm de pluie depuis le 21 janvier contre 50 en moyenne pour un mois jugé normal. C'est un gros déficit pluviométrique qui s'ajoute au manque d'eau chronique depuis l'été dernier. Et pourtant, on peut dire, hein, c'est un peu une éclaircie, hein, dans ce climat. Ces nappes phréatiques franciennes ne se portent pas si mal. Quelques petites masses d'eau souterraines dans les Yvelines ou au sud de la Seine et Marne sont en dessous de la moyenne. Le reste de la région est dans le vert. Par exemple, dans le Val d'Oise, le niveau des nappes est même plus élevé que la moyenne d'un mois de février classique. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, car en fait, c'est une question de caractéristiques des nappes phréatiques. Elles sont généralement plus profondes en Île-de-France, surtout dans le nord-est de notre région. Depuis le mois de janvier, la tendance est à la baisse dans une majorité des nappes franciliennes, ce qui est assez inquiétant. C'est pourquoi les agriculteurs, certains céréaliers franciliens commencent à se pencher sur comment et quoi semer dès le printemps. On va suivre ça avec attention et n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'avoir des récupérateurs d'eau, et évidemment de faire attention, hein, de ne pas utiliser et gâcher l'eau bêtement. N'hésitez pas, ça va être un geste qu'on devra tous faire dans un avenir très proche. Et avant de se quitter, la citation de la semaine. Charles Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » On va méditer dessus. Je vous rappelle qu'en début d'émission, nous étions avec Gérard Guillot pour son très joli guide, le guide des fleurs du jardin. C'est une nouvelle édition, c'est paru aux éditions Belin. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur IDFM 98. www.radiocontact.fr. Merci encore à Francky pour la technique. À suivre, vous allez retrouver Sabrina pour son émission Au cœur de l'assaut. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'IDFM Radio. À la semaine prochaine. Au revoir.